Sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe quand on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire à la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débat du jour qui commence avec au programme aujourd'hui un petit détour du côté scientifique, mais au travers d'un livre. Ce livre s'intitule « Médecine alternative et complémentaire, qu'est-ce qui marche ?» C'est paru aux éditions Les Arènes et c'est coécrit par Alexandra Delbeau et Florent Gouttière. Et pour en parler, nous sommes allés rencontrer Alexandra Delbeau au cours d'un entretien passionnant. Voilà, c'est ce que vous retrouverez en première partie d'émission. Et en seconde partie, eh bien, ce sera la chronique de Gérard Guégan, chronique mensuelle. Et nous parlerons à cette occasion de deux ouvrages. Et ce sont deux ouvrages qui donnent envie d'être découverts. Je vous en parle après l'entretien avec Alexandra Delbeau.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite. Elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, avec le grand plaisir de rencontrer aujourd'hui Alexandra Delbo pour un ouvrage qui est paru aux éditions Les Arènes et qui s'intitule « Médecine alternative et complémentaire, qu'est-ce qui marche ?» Alors merci déjà d'avoir accepté cet entretien. Et puis d'emblée, on va parler du titre « Médecine alternative et complémentaire ». Et toute la problématique, elle est posée déjà dans le choix des mots. Parce que ce livre qui recense un certain nombre de pratiques qui vont, alors je vais prendre celles qui sont sur la couverture, qui vont de l'acupuncture à l'aromathérapie, en passant par effectivement l'hypnose, le jeûne, l'ostéopathie et plein d'autres choses, pose des vraies questions. Et moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. On va parler du titre dans quelques instants, mais c'est un ouvrage qui pour moi est important parce que ces pratiques, moi j'utilise le terme pratique, qui nous entourent sont très importantes et on va en parler et on va voir pourquoi. Mais il n'y avait jamais eu de bouquin qui en quelque sorte font un bilan de l'histoire et de ce qui marche et avéré par des vraies études. Donc merci d'avoir fait ça. Mais on revient sur médecine alternative et complémentaire, parce qu'il y a tellement de débats autour des dénominations.
Il y a un enjeu sur la définition. La raison pour laquelle on a choisi ce titre-là, c'est parce que c'est le titre aussi populaire et que c'est reconnu comme ça. Et il faut quand même se rendre compte que quand on fait un livre,
il faut qu'il y ait des lecteurs.
Pas forcément un titre qui soit plus accrocheur qu'autre chose, parce que là, c'est pas forcément ce dont il est question. On pourra parler de qu'est-ce qui marche, justement, où on a été prudent sur cette question-là. Si on a choisi ce terme, c'est justement parce que l'OMS parle de médecine alternative et complémentaire. Donc, il y avait un enjeu d'une définition qui soit globale, qui soit entendue et comprise de tous, et on sait plus ou moins à quoi on fait référence, en fait, quand on parle de ça. Là où il y a quelque chose d'un peu plus sinueux, c'est qu'en fait, tout le monde a déjà eu recours aux MAC, on les appelle les MAC, donc médecine alternative et complémentaire, MAC, tout le monde y a déjà eu recours. Donc quand on parle de MAC, peut-être on peut parler... d'ostéopathie, acupuncture, voilà. Ostéopathie en France, énormément de personnes y ont recours. Mais par exemple, faire un petit jeûne après les vacances de Noël, par exemple, une petite détox, un petit
détox,
exactement, des petites granules d'homéopathie quand on a mal, je sais pas, aux muscles après du sport. Voilà, tout ça, ça recouvre les MAC et on voit que justement l'enjeu de définition est difficile parce que ça regroupe des pratiques qui sont extrêmement
différentes.
Exactement. Mais tout le monde il y a eu recours. C'est-à-dire qu'on a très peu de chiffres, parce qu'on n'a que des sondages qui ne sont jamais satisfaisants en termes de chiffres. Mais il y a cet enjeu-là. Dans la deuxième partie du titre, justement, on s'est focalisé sur qu'est-ce qui marche. Et on a pris donc 26 médecines alternatives et complémentaires et, pour justement regarder qu'est-ce qui marche, donc qu'est-ce qui a une efficacité, selon quels critères, et qu'est-ce que ça veut dire ça marche. C'est aussi en filigrane ce qu'on a essayé de regarder un peu plus précisément. Et puis sur la question des pratiques, parce que c'est le terme que vous avez employé au début, effectivement par exemple il y a l'ordre des médecins qui parle de pratiques non conventionnelles, pratiques de soins non conventionnels. On comprend que le terme est un peu long, très peu vendeur pour le coup,
ça et marche que, pas sur
en
un
fait
titre.
Ça veut pas dire, enfin ça éveille pas plus de choses pour le grand public. C'est une sorte de précaution en fait épistémique qu'on utilise, mais ça veut pas dire grand chose. Et après ça se définit toujours en opposition à quelque chose, à ce qui est conventionnel. Et là, même si on va toucher à ce qu'est la médecine conventionnelle et même à ce qu'est la médecine, c'est difficile de voir. Un dernier petit mot sur... justement, on nous a opposé en fait ce titre-là en nous disant « Mais vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas utiliser ce terme, en fait, précisément. » Et ce qu'on répondait à ça, c'est que justement, le terme de médecine alternative, le problème, c'est que si dans ces pratiques, par exemple, on va peut-être en parler, l'acupuncture ou l'ostéopathie ont des efficacités propres pour certaines indications, mais pas pour toutes. Donc, est-ce qu'une partie fait partie de la médecine et une partie
pas l'autre.
Voilà. Et donc, c'est un véritable casse-tête, en fait, que de trouver la bonne définition et le bon terme pour les groupes.
Oui, non, mais c'était pour titiller un peu. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, Alexandra Delbo, dans cet ouvrage « Médecine alternative et complémentaire, qu'est-ce qui marche ?» paru aux Arènes et coécrit avec Florian Gouthière, il faut quand même ne pas l'oublier, c'est justement c'est cette manière d'aborder chaque médecine différente et en fonction des indications et en fonction de vraiment ce qui a été publié. On va en parler. Mais je crois que comme on l'évoquait, tout le monde a eu recours à ce type de pratique. Et puis, quand on a un problème de santé, c'est « Mais pourquoi tu vas pas voir un acupuncteur, un ostéopathe, un machin chose hein ?» Donc ça, c'est quelque chose de fréquent. Et la question qui se pose, c'est justement « Pourquoi autant de succès ?» par rapport à la médecine, entre guillemets, allopathique conventionnelle. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir le temps consacré aux patients par rapport à cet épuisement de la médecine allopathique traditionnelle qui doit faire du chiffre, qui n'est pas, enfin, qui a des gros problèmes
de
voilà, tout à fait.
Il y a des problèmes un peu systémiques qu'on voit dans le système de santé français, parce que bien sûr, pour le bouquin...
Ah oui, oui, on se base sur nous.
Uniquement en France, on peut parler que de là. Donc, effectivement, on peut voir les différentes crises sanitaires. Même la crise sanitaire qu'on vient de vivre, en fait, montre encore une fragilité du système de santé. Il y a cet enjeu évident du temps consacré, en fait, des médecins. Ouais. C'est-à-dire que les médecins, si on met vraiment de côté la question de la volonté de pouvoir s'enquérir un petit peu plus du bien-être de ses patients, en mettant de côté ça, en fait, les médecins généralistes n'ont pas plus que, en moyenne, il y avait quelques chiffres qu'on avait regardés, c'était 20 minutes.
Oui, et ça a un peu augmenté d'ailleurs.
C'est un petit peu augmenté. Et très légèrement, vraiment très légèrement. Mais ça veut dire que ça n'a pas vocation à forcément bouger. On voit en disant que ça n'a pas vraiment bougé. Donc il y a cet enjeu-là. Et c'est quelque chose, par exemple, qu'on peut voir, que ce soit avec les médecins homéopathes, justement. parce que vous parliez d'allopathie, justement, c'est un terme qui est utilisé par les médecins homéopathes pour qualifier cette autre partie de la médecine qu'ils exercent aussi. Mais qui n'a pas forcément de réalité scientifique en tant que telle, mais c'est intéressant d'en parler. Et justement, les médecins homéopathes donnent un peu plus de temps, en général au moins une heure à leurs patients, au moins le premier rendez-vous. Et par exemple, la naturopathie va encore plus loin.
Plus loin,
là,
ouais.
C'est pas par un professionnel de santé, mais c'est de 60 à 90 minutes pour le premier rendez-vous. On peut toucher un peu du doigt la différence de consultation qu'on peut avoir. Déjà, il y a d'un côté un professionnel de santé, d'un côté un non-professionnel de santé, mais il y a aussi le fait qu'un médecin, en 20 minutes, va faire un check-up complet. Par exemple, si on a mal, je ne sais pas, à l'estomac, il va s'assurer qu'il n'y a pas de maladie très grave. Il va faire une palpation, il va demander des examens, il demande de revenir avec les examens. Donc, du coup, ça énerve un petit peu. On ne sort pas du cabinet avec une réponse directe. Chez un naturopathe, vous lui expliquez que vous avez quelques désagréments, il va bien sûr vous demander vos antécédents médicaux, il va vous demander comment ça va aussi, en fait, tout simplement. Et le simple fait d'arriver à là, dans une partie plus psychologique, voire un peu plus, des fois, spirituelle.
Oui, moins technique.
Moins technique, en fait, donne un autre aperçu. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, important ou à faire ou pas faire, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là et d'un aspect qui n'est pas pris en compte. Et dedans, par exemple, on a notamment les questions des douleurs. qui sont très problématiques, pas forcément bien prises en charge, nulle part, hein, je pense, dans le monde. Je pense que c'est un nouveau problème, la question des maladies chroniques. Exactement. On peut penser même à la prise en charge des symptômes associés au cancer. On peut penser aux chimiothérapies, en fait. Et on peut penser à l'anxiété, au stress. Ça, c'est des nouvelles pathologies qui n'étaient pas prises en charge en tant que telles il y a 20 ou 30 ans et qui deviennent maintenant un petit peu fondamentales. Et dans les médecines alternatives, on voit aussi émerger cette question de mieux-être. C'est-à-dire, à côté de ces pathologies qui peuvent être chroniques ou graves, et ou aggraves, il y a aussi le simple fait de se ressaisir de sa santé, de devenir acteur de sa santé, de casser un petit peu ce paternalisme qui peut exister entre la relation soignant-soigné.
Le patient passif.
Exactement, et redevenir justement actif dans cette relation-là. Et on voit que c'est plein d'éléments qui, mis bout à bout, font, expliquent au moins en partie un succès des MAC, sans pour autant passer outre en fait la médecine qu'on dit conventionnelle, parce qu'on en aura toujours besoin. Donc c'est quelque chose qui émerge un petit peu parfois en opposition, d'où le alternatif, et parfois avec, d'où le conventionnel.
Alors, on évoquait, Alexandra Delbo, le fait que dans ce livre, il y avait 26 médecines alternatives et complémentaires qui étaient passées un peu en revue, mais qu'il y en avait beaucoup plus que ça, 400, ce qui paraît quand même assez incroyable. Et comment s'est fait le choix, alors ?
Mais justement, on a pris les plus populaires en France, c'est-à-dire qu'on s'est attaché à voir ce qui, pour nous déjà intuitivement, nous venait, ce qui nous venait moins intuitivement, ce qui était fait par même notre entourage, ce qui était fait, ce qui ressortait le plus dans l'actualité en fait. Et on a essayé de dresser cette liste de 26, sachant qu'on aurait pu en faire plus. Alors, c'est le moment où on s'arrête jamais, en fait, il y en a qu'on n'a pas pu rentrer dedans. Mais l'enjeu c'était ça, c'était de traiter ces 26-là. Les plus communes et de les traiter toujours avec la même méthodologie, c'est-à-dire de voir à chaque fois quelle est leur histoire.
L'histoire, oui.
Parce que c'est un point qui était assez intéressant, l'histoire, c'était nous on s'était au départ beaucoup focalisé sur les études scientifiques, c'était notre point de départ, sachant qu'on n'allait pas faire que ça, mais c'était de voir quel était le corpus de littérature scientifique qui pouvait être adressé justement pour chaque MAC, pour certaines indications particulières. Et puis autour de ça on a fait l'histoire. C'est assez passionnant parce que finalement on se rend compte qu'un certain nombre de MAC explique ou repose sur le fait qu'elles sont anciennes, qu'elles sont traditionnelles.
Alors qu'en fait, il n'y a rien.
Alors qu'en fait, il n'y en a pas une qui soit vraiment traditionnelle, enfin, qui soit vraiment ancestrale. Et finalement, ça se comprend aussi. La médecine en 3000 ans a évolué. N'importe quelle pratique, qu'elle soit mise dans la médecine conventionnelle ou non, a évolué. La phytothérapie fait partie intégrante de la médecine occidentale et elle a évolué. Donc on pourrait avoir du mal à imaginer que par exemple l'Ayurveda ait 5000 ans et qu'elle n'ait pas changé et évolué depuis, avec nos connaissances en fait en physiologie qui ont aussi touché ces praticiens-là. À côté de cette histoire-là, on a justement la question de qui pratique, de comment ça se pratique, une petite séance type qu'on a essayé de faire, les fondements théoriques et justement ensuite les études et les risques surtout.
Oui,
et je pense que c'est un peu la question principale à côté de la question qu'est-ce qui marche, c'est de dire dans quel cas reconnaître un danger. Et c'est un petit peu ce qui doit faire réfléchir et doit faire pousser à faire un choix finalement entre est-ce que dans ce cas-là je peux aller me tourner vers les MAC ou dans ce cas-là non. Et en fait, si je dois le résumer assez rapidement parce que c'est important d'avoir justement ce savoir-là, c'est de dire il n'y a pas de mal à se faire du bien tant que ça ne fait pas plus de bien que de mal. C'est un peu l'enjeu, c'est un peu l'idée. Et en fait, en gros, en cas de pathologie grave, n'arrêtez jamais votre traitement. C'est vraiment, je pense, le cœur de la chose, c'est n'arrêtez jamais votre traitement. Il y a des cas, en fait, de décès de patients qui ont arrêté leur traitement, notamment de cancer. C'est un des risques majoritaires aussi avec les dérives sectaires qui sont associées à ça. Et donc, du coup, c'est vraiment un élément fondamental et de se dire que jamais un oncologue, donc un médecin traditionnel, ne reprochera à son patient d'essayer des choses pour le faire se sentir mieux dans cette période particulière qui est la prise en charge d'un cancer.
Alors, j'allais dire, c'est la définition du soin, le primum non nocere, c'est aussi le principe qui meut la médecine. Alors, on va faire une petite parenthèse, parce que là, on évoquait justement les patients suivis en oncologie, et il y a des études intéressantes qui ont été faites à Grenoble, je crois, dans un service de cancéro, justement, de savoir quel est le pourcentage des patients qui sont suivis donc par la médecine traditionnelle, classique, pour leur cancer et qui ont recours à des médecines alternatives et complémentaires. Mmh. Et le pourcentage est très, très important. Mmh. Et ils ont fait des études, et ça, c'est assez intéressant, de savoir si ça apporte un plus ou pas à ces patients. Et j'ai trouvé que c'était une approche vraiment... Puis c'est en Suisse où on donne aussi les adresses des personnes qui peuvent être consultées. Et ça, j'ai trouvé que c'était une approche intéressante.
Que de voir justement ce lien. Et finalement, il y a assez peu d'études hors de celle-ci qui regardent les prises en charge et la manière de prise en charge en parallèle, en fait, pour une question comme le cancer. Et en fait, mine de rien, il y a aussi... très peu d'études qui vont se confronter à quel point on a recours en fait à ces MAC-là en fonction des indications. Et par exemple, dans le livre, on essaye souvent de toucher à d'aller voir les études justement sur les douleurs chroniques, sur l'arthrose, sur des maladies qui sont extrêmement communes et encore extrêmement mal prises en charge. Et je pense qu'il y a un enjeu, au-delà de la réglementation, on pourra y venir, mais il y a un enjeu aussi que la France se saisisse de ce sujet-là.
Tout à fait.
Complètement, pour mener des évaluations et pour voir où est-ce qu'on en est. Parce qu'en fait, on ne peut pas mettre les 26 pratiques dont on parle ici au même niveau.
Au niveau, pas du tout.
Pas du tout. Il y en a qui n'ont aucun fondement scientifique sérieux. Il y en a qui... sans explication du fondement biologique, peuvent avoir des effets. Il y en a qui n'ont pas d'effets et qui sont dangereuses. Mmh. Et on voit qu'on ne traite pas de la même chose, en fait, dans ces questions-là. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu, justement, de mener des études semblables pour voir un petit peu à qui s'adresse tout ça et comment... Et ça amène à la question de comment les réguler aussi. Ça amène à comment est-ce qu'on s'assure qu'il y ait de moins en moins de risques pour les personnes qui se tournent vers ces pratiques.
Ça va mal quand je n'ai pas le moral, quand je sens mes nerfs qui craquent, ou lorsque je suis patraque. Pour me mettre dans le bain, je connais un bon moyen. Dans un verre d'eau sucrée, je prends pour me remonter
du silicate anhydrique de magnésium, du sulfur gaïacolate de potassium, du glycérohydrate monoammoniacal, du bichlorhydrate mylénique officinal, de l'orthodioxybenzénotocopherol, du gras oxypropanédiol en ampoule, de la binophénisulfonatrophénamide, de l'hexachlorocyclohexanesculoside, de l'acide alylisopropylorbiturique, de l'éthervinzylammoniumcotide phosphorique, de l'acétylaménéphénylarsinazole, du gras oxypropanédiol en capsule. En ampoule, de l'aminophénisulfonatamphétamine, de l'hexachlorocyclohexanesculoside, de l'acide alylisopropylbarbiturique, de l'éthervinzylammoniumcotide phosphorique, de l'acétylaménéphénylarsinazole, du gras oxypropanédiol en capsule.
Et si vraiment ça ne va pas mieux, pas mieux, pas mieux, je prends deux ou trois aspirines et un sucre.
Alors, moi, ce qui m'a intéressé aussi, Alexandra Delbault, dans ce livre, donc Médecine alternative et complémentaire, qu'est-ce qui marche, paru aux éditions Les Arènes, c'est que justement, repartir de l'histoire, ça permet de voir, au niveau législatif, par exemple, les tolérances qui peuvent exister par rapport à des produits ou des trucs qu'on qualifie, bah, c'est ancien. Donc, du coup, ça a fait la preuve de son efficacité. On ne soumet pas à des études particulières. C'est-à-dire que les autorisations de mise sur le marché, par exemple, sont beaucoup plus light que pour n'importe quel médicament qui va sortir maintenant. Et j'ai trouvé ça complètement fou. Quoi.
C'est le cas particulier, en fait, de la phytothérapie. Oui. Et pour le coup, je vous l'avoue, j'ai découvert aussi au moment où on a écrit ça. Et en fait, donc du coup, il y a une autorisation de mise sur le marché. Donc c'est une autorisation qui est demandée pour n'importe quel dispositif et produit médical, qui est une longue succession d'analyses normalement pour ce qui est du médicament, où on doit prouver l'innocuité, donc l'absence de toxicité, et l'efficacité d'une molécule au regard de ce qui existe déjà, ce qui rajoute encore un autre pan. Dans le cas de la phytothérapie, il y a justement des autorisations de mise sur le marché qui sont grandement allégées, qui ont changé depuis 2011, il y a une nouvelle réglementation par rapport à ça, et qui doivent être sur le territoire européen depuis au moins 15 ans, 30 ans si c'est hors de ces territoires-là. Et donc du coup, il y a ce phénomène moins difficile, où il n'y a pas besoin de donner des preuves d'efficacité. On se dit que, puisque ça fait longtemps qu'on l'utilise, ça doit bien marcher quelque part. C'est intéressant de voir justement à quel point le curseur législatif est un peu différent. Mais il y a un autre point qui me semble intéressant aussi, c'est qu'en fait, si on mettait de côté en fait ces produits-là et qu'on leur faisait soumettre en fait à la même rigueur en fait des médicaments, le problème c'est que aucun d'entre eux ne serait jamais autorisé, même s'ils ont une efficacité. Et le problème derrière ça, c'est que puisqu'il n'est pas possible de poser de brevets sur des extraits de plantes, ou en particulier avec des extraits 100% purs de quelque chose, il y aura personne, aucune industrie
qui va payer.
Exactement, qui va payer pour les études. Et donc personne ne pourra investir là-dedans. Non. Et c'est là où on touche du doigt aussi une autre question, qui est le financement des études.
Le côté économique.
Exactement, le côté économique. Un essai clinique, donc l'essai clinique, c'est vraiment la meilleure manière de pouvoir tester un médicament ou une pratique ou une chose, qu'importe, en comparant avec un placebo, en double aveugle si on veut, c'est le meilleur, pour voir si est bien comparé et avoir une évaluation statistique de quelque chose qui marche ou qui ne marche pas justement. Et en fait, il y avait certains chiffres, un essai clinique peut coûter jusqu'à 200 millions d'euros. C'est un chiffre de Bruno Falizard qui a justement fait pas mal d'études pour l'INSERM sur ces questions-là. Et on sait qu'on ne va pas mettre 200 millions d'euros sur du millepertuis, en extrait.
Même si c'est antidépresseur.
Et pourtant, on voit qu'il y a eu quand même une petite dizaine au moins, si je ne me trompe pas dans les chiffres, d'études sur le millepertuis qui montrent justement que c'est une plante qui a parmi les plus grandes preuves d'efficacité sur les symptômes dépressifs, au moins modérés pour ces questions-là. Bon, après, on sait que la dépression est assez mal soignée par les antidépresseurs. C'est une autre question. Ça a été comparé à ça. C'est un petit peu l'enjeu. Mais si on met à côté de ça, on voit que tout se mêle et qu'en fait, il n'y a pas forcément de bon côté et de meilleur côté. Il y a une AMM allégée, oui. Une autorisation de mise sur le marché allégée, oui. Mais de toute façon, il n'y aura personne pour mettre de l'argent dedans pour prouver que c'est efficace. Donc, c'est toujours un petit peu ambivalent et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce livre. C'est de se dire, rien n'est tout noir ou rien n'est tout blanc. Et en fait, c'est plus complexe que ça.
Oui, alors c'est vrai qu'en plus la législation a un peu évolué parce que ça fait pas si longtemps que ça que l'homéopathie est déremboursée.
2021.
Voilà, c'est quand même extrêmement récent et quand on voit les principes, parce que justement le livre permet de voir sur quoi repose, sur quels principes scientifiques reposent ces différentes médecines alternatives, et il y a des trucs qui sont simplement délirants. Si les gens savaient ce qu'il y a dans l'oscillococcinum, pense qu'ils hésiteraient peut-être avant d'en prendre.
Du foie de canard de barbarie macéré, et puis c'est le même depuis je ne sais pas combien d'années. C'est assez intéressant. Oui.
Voilà, donc il y a cet aspect-là. C'est la même chose pour ce qui concerne les formations, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a des écoles pour certaines médecines alternatives qui sont là vraiment sérieuses, et puis d'autres qui sont beaucoup plus fantaisistes avec des trucs quand même assez, assez dingues. Donc il y a une hétérogénéité absolument incroyable.
Dans la manière dont sont formés les praticiens, puis de même dans la pratique, parce qu'en fait ça découle.
Ah oui, chacun a son école.
Exactement, chacun a son école. Si on prend le cas par exemple.
Je pense à l'hypnose.
L'hypnose, justement, en plus, il y a plusieurs pratiques dans la pratique.
Voilà.
C'est un petit peu. tout l'enjeu dans l'hypnose, on retrouve l'hypnosédation, donc c'est l'anesthésie par hypnose. Ça a fait preuve d'efficacité, et en fait c'est le plus simple parce qu'en fait c'est quantifiable. On peut regarder combien de millilitres d'anesthésiant vous a mis par rapport à l'hypnose, et en fait c'est ce qui est le plus facilement quantifiable. L'hypnothérapie, donc ça recouvre plus les psychothérapies, et là on a beaucoup de mal à l'évaluer parce que c'est inhérent au problème des psychothérapies. C'est-à-dire qu'on va pas, le protocole idéal pour mesurer ça, ce serait d'avoir un même praticien qui voit et fait la thérapie de 150 personnes. Voilà, on sait que c'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc il y a cet enjeu-là, et ensuite il y a d'autres thérapies d'hypnose où là les praticiens ne sont pas des professionnels de santé. Mmh. Et on voit que quand on est n'importe qui, même moi, en fait on se perd sur les l'hypnothérapeute, est-ce qu'il est médecin ou est-ce qu'il n'est pas médecin. Voilà, et donc là c'est toujours la question de vers qui se tourner et vers qui on tombe aussi. Et c'est pour ça qu'il y a tout un enjeu aussi de réglementation. Sans ce que je veux pas dire qu'il faut à tout prix réglementer tout, parce que je pense pas que ce soit ça la solution non plus. Une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas interdire quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir se saisir de la question et vivre un petit peu avec. Mais il y a un enjeu de réglementer au moins les pratiques qui sont les plus hétérogènes et les plus diverses. Moi je pense par exemple la naturopathie, qui est celle qui finalement présente le plus de risques. En fait, le plus de risques, c'est-à-dire il n'y a pas de risque inhérent à la pratique en elle-même dans ses fondements, parce qu'en fait ça repose sur
c'est le non-accès à un traitement.
Exactement. Ça repose sur un vitalisme, donc c'est le fait de pouvoir puiser son énergie pour guérir. Bon voilà, ça, il n'y a pas de fondement qui puisse être vérifiable scientifiquement, on dira. Mais le problème, c'est tout ce qui en découle, en fait. Les conseils théoriques des naturopathes, c'est bien manger, bien dormir, bien vivre, faire attention et faire du sport. On est tous d'accord avec ça. C'est ce qu'il faut faire. Dans la pratique, c'est un peu différent. Et en fait, elle touche à beaucoup de MAC différentes. C'est-à-dire que il y a du jeûne, il y a du crudivorisme. Et dans le jeûne et le crudivorisme notamment, il y a des risques de dérive sectaire qui sont identifiés, qui sont vus auprès de la
Miviludes.
Exactement. Donc, qui se chargent justement de la lutte contre les dérives sectaires au ministère. Et donc, il y a justement tout ce fait-là qu'on voit, et il y a ces dérives-là, et il y a les pertes de chance, et il y a les dérives sectaires qui se cumulent, et il n'y a jamais eu autant de saisines que pour la naturopathie à l'encontre de Thierry Casanova.
Bien sûr.
Voilà, et qui avait défrayé un peu la chronique parce qu'il avait aussi pignon sur rue. Et c'est toujours aussi l'enjeu, c'est de voir qu'il y a les praticiens qu'on voit à l'hôpital, par exemple la sophrologie est très présente à l'hôpital, il y en a ceux qu'on voit à notre salle de sport à côté du yoga, disons, et puis il y a ceux qu'on voit sur internet. Et on voit qu'on est un pan complètement différent. Je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre sur le même niveau les risques liés à la sophrologie dans un hôpital, même si on peut questionner la raison pour laquelle c'est entré. Tout à fait, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse mettre sur le même niveau ça. Un médecin homéopathe, il y a eu un cas de grande dérive avec l'homéopathie, mais si je mets ça de côté, avec un médecin homéopathe, que depuis la naturopathie, avec quelqu'un qui, dans son salon ou sa cuisine, va se mettre à faire un jeûne alors qu'il est malade, alors qu'il a une maladie lourde, en fait, et alors qu'il arrête son traitement. On voit qu'on n'est pas du tout sous le même ordre de grandeur, et que là, il y a justement, je pense, un enjeu de se saisir de cette question-là et de voir une réglementation que demandent par ailleurs les naturopathes.
Bien sûr, parce que c'est le garant de leur poursuite.
Voilà, ils sont obligés de se ranger de ce côté-là. Ouais.
Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. afin de guérir au plus vite. Un matin, tout dernièrement, je suis allé à la visite voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'y répliquais. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur. J'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent. J'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent. Les tibias, raplapla, les mollets trop épais. Les orteils, pas pareil. J'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long. L'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent. J'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas trinque. Ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour. Mais un soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublée, elle me dit, qu'avez-vous? Moi j'y répondis, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôle. J'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme. J'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareil, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi, quel souci, la luvette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est palais, mais les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découe et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas trinque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
Alors, médecine alternative et complémentaire, qu'est-ce qui marche? Dans ce titre, il y a le mot marche. Et on ne peut pas ne pas évoquer quand même, Alexandra Delbo, l'effet placebo. Parce que on évoquait la sophrologie qui est rentrée à l'hôpital, mais n'oublions pas que tout ce qui est cure thermale est encore pris en charge par l'assurance maladie. Pour résumer, mais c'est un peu le point de vue qui émerge de la vie qui figure dans le livre, c'est sûr que si on vous met 3 semaines dans un endroit cool à vous coucouner, vous ne pouvez aller que mieux.
Bah voilà, vous irez forcément en fait un petit peu mieux derrière après ça. Donc c'est un peu tout l'enjeu de se dire, bah, finalement, pourquoi il y en a certaines qui sont remboursées et pourquoi pas d'autres. Il y a l'enjeu aussi de se dire qu'est-ce qu'on devrait rembourser. De plus en plus, il y a les mutuelles qui remboursent quand même maintenant. Et on voit qu'il y a un enjeu aussi à se saisir cette question-là tout de suite et pas à laisser peut-être émerger une forme de flou qui existe encore à l'heure actuelle. Et finalement, ce qu'on montre un peu dans le livre, on essaye de ranger des choses qui étaient floues avant. C'est un peu l'enjeu.
Ouais, c'est très bien, c'est très très bien.
Un guide, en fait. Et là-dedans s'ancre l'effet placebo. Et l'effet placebo, c'est pas un gros mot. C'est bien, l'effet placebo, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose, en fait, que ça marche sur nous. C'est pas un problème de l'utiliser.
Non.
La question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit dire qu'on l'utilise quand on l'utilise? C'est un peu la question. C'est, je pense qu'il a été en partie reproché aux médecins homéopathes à un moment. Donc, il y a 3 ans maintenant, quand ça a été remboursé, c'est de dire, vous pratiquez l'homéopathie, on n'a aucune preuve d'efficacité. C'est en plus une MAC pour laquelle on a, je sais pas, 150 études, 47 méta-analyses, donc études d'études. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'effet propre supérieur, en tout cas, au placebo. Donc, ça se confond avec le placebo. Et c'est de se dire, mais est-ce que je dois dire à mon patient que c'est un effet placebo? Et c'est un peu tout l'enjeu, parce que ce qui leur a été reproché, c'est vous ne dites pas, en fait, la vérité à votre patient, et c'est un problème. Et c'est vraiment là où on touche du doigt de dire ou de ne pas dire. Mais après, le placebo n'est pas un gros mot et c'est bien de s'en saisir. Et ce n'est pas parce qu'on sait que c'est un effet placebo que ça ne marche plus. Mmh. J'ai un exemple qui justement marche avec un médicament pour sortir justement de cette question des MAC. Si vous avez mal à la tête, et que vous prenez un Doliprane, s'il agit en 5 minutes, c'est placebo. Voilà.
Mais on est confronté en médecine traditionnel à ça tous les jours. Oui, effectivement, l'effet placebo, comme il y a l'effet nocebo quand on informe du patient des risques à prendre tel ou tel traitement. Oui, il y a des patients qui ont les symptômes dans les 5 minutes aussi qui suivent la prise. Et ils ont toute la liste.
Et ils ont toute la liste, forcément. Donc, il y a aussi peut-être un petit bénéfice à tirer de cette légère naïveté de notre corps, si on peut le dire comme ça. Je pense qu'il faut se saisir des choses qui nous font du bien, même si on n'est pas tout à fait rationnel par rapport à ça. On n'a pas à être totalement tout le temps rationnel. Moi, je prends des tisanes qui sont peut-être estampillées de détox parce que j'aime bien le goût, mais je me voile pas la face sur ce que ça va faire sur mon corps. C'est la seule différence. C'est le fait de se dire est-ce que je vais me désintoxiquer de quelque chose ? Non. Est-ce que je ne dois pas en prendre parce que je sais que ça fait rien ? Bon, voilà. Après, c'est chacun un peu libre à soi de se saisir de ça. Mais l'enjeu du livre, c'est vraiment d'être conscient de ce que ça veut dire, en fait, surtout, ça marche, et des risques qui sont attenants à ces pratiques.
En tout cas, c'est un très bon guide, parce qu'on apprend des tas de choses, et puis ça permet aussi de se faire un point de vue, de voir ce qui a une véritable efficacité, dans quel domaine, dans quelles indications, et de voir ce qui est potentiellement dangereux. Alexandra Delbault, la pratique la plus dingue,
l'urinothérapie.
Quoique la médecine germanique, c'est pas mal non plus.
C'est un nom qu'on connaît pas trop avec la biologie totale. Enfin, ça, c'est la même chose qui porte plusieurs noms. Mais en fait, on le connaît tous et toutes parce que c'est ce qui se réfère à, vous l'avez forcément entendu déjà un jour, c'est si tu as un cancer, c'est parce que il s'est passé un mauvais événement dans ta vie. Ah oui, j'ai perdu un proche et j'ai eu un cancer 2 ans plus tard. Voilà, c'est de faire de liens, en fait, ce qui n'existe pas, entre une potentielle vie et une potentielle psychologie avec des maladies qui pourraient se déclencher dans notre corps là. Et donc, sous-entendu, on pourrait s'en libérer en se libérant psychiquement de ces éléments-là. Donc ça, c'est très dangereux parce que c'est une porte vers les dérives sectaires énormes. Donc ça, c'est farfelu, mais finalement, moi, je l'ai déjà entendu dans mon entourage, en fait.
Ah bah, c'est quelque chose qui revient très, très souvent.
Mais oui, en fait, c'est le moment où on cherche une raison à une maladie, et c'est aussi une autre question dont ne saisit pas forcément la médecine conventionnelle, c'est de se dire, quand on est face à une pathologie comme ça, je prends l'examen des cancers parce que c'est tellement courant.
Pourquoi maintenant ?
Voilà, pourquoi moi, pourquoi les autres ? Et quand je m'en sors, pourquoi moi je m'en suis sortie et pas les autres ? Et c'est toujours ces questionnements-là. Bien sûr, il y a des prises en charge, en fait, des psychothérapies pour les gens qui justement sont atteints de ces maladies. Mais on voit qu'on n'a peut-être pas creusé assez le problème et que c'est peut-être quelque chose à se saisir, en fait, de cette question-là à ce moment-là. Après, pour en revenir à celle que je trouve la plus loufoque, oui, c'est l'urinothérapie.
Bien sûr.
Donc l'urinothérapie, c'est le fait de boire son urine, diluée ou non, et le but caché, c'est de stimuler son immunité, voire de guérir certaines cellules cancéreuses. On voit qu'il y a toujours ce cancer qui est jamais loin. C'est pas une pratique qui n'existe pas du tout. C'est-à-dire que nous, on a quelques chiffres. Il me semble qu'on a pu noter environ 6000 praticiens en Chine. Parce que c'est pas mal pratiqué en Chine. C'est un des seuls chiffres qu'on ait trouvé pour la question. Donc on voit que ce n'est pas nul. Il y a pas mal de vidéos aussi sur YouTube qui sortent.
Qui recommandent.
Sur ces questions-là. Donc c'est pas rien. Après, ne le faites pas. C'est pour le coup.
Ça, c'est dangereux.
Autant,
ça.
La détox, vous allez juste
dépenser des sous.
Dépenser des sous, en fait, pour un fabricant de thé, à la rigueur. Donc, ça, c'est un peu votre problème. Pour le reste, ne le faites pas parce qu'en fait, c'est un déchet. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a même aucune raison biologique pour réavaler un déchet. Vous risquez, vous, de vous intoxiquer au bout d'un moment. Si vous prenez un verre d'urine chaque jour, il ne va rien se passer, je pense. C'est de boire uniquement toute son urine. Et donc, il y a assez peu de risques dans la pratique, mais je ne le recommande pas.
Ça s'appelle Médecine alternative et complémentaire. Qu'est-ce qui marche ? C'est d'Alexandra Delbault et c'est de Florent Gouttière. C'est paru aux éditions Les Arènes et c'est absolument passionnant. Alors, vous y trouverez bien sûr l'acupuncture, l'hypnose, on l'a évoqué. Le MDR, d'apparition assez récente, est pas mal pratiqué, mais aussi des choses beaucoup plus, j'allais dire, ancienne. Ah, il y a un truc que j'ai trouvé assez drôle pour tout ce qui est magnétiseur, coupeur de feu. C'est marrant de voir comment on a commencé avec les aimants magnétiseurs, puis c'est devenu radiesthésiste, puis maintenant on va jusqu'à la médecine quantique, et c'est cette adaptation au progrès scientifique qui m'a aussi amusée.
On voit une filiation en fait, oui, parfois un peu entre toutes, notamment pour ces théories-là. On voit qu'il y a une adaptation progressive en fait à ce qui marche, à l'air ambiant aussi, parce que les coupeurs de feu ont eu la cote puis sont revenus. On voit qu'il y a cet aléa dans le temps, et on voit aussi par exemple avec le magnétisme qu'il y a une séparation avec l'hypnose.
Tout à fait.
Ça s'est touché à un moment,
ouais.
Et on voit que l'hypnose est redevenue scientifique quand notamment Charcot en fait l'a utilisé.
Ouais.
Exactement, il a fait des expériences, bon, notamment sur l'hystérie, hein, qui est une maladie qui n'existe pas. Hein, il faut le souligner. Mais justement, il y a celle-là. On voit que parfois ça jouxte en fait ouais, les pratiques qui sont devenues plus conventionnelles. Ou alors pratiquée en fait par des médecins comme l'hypnose, et on voit que il y a justement leur histoire en fait qui se touche, et même dans les thérapies naturelles on voit qu'il y a une redondance, notamment par exemple avec la médecine hippocratique, donc le fait de la théorie des humeurs, comment contrebalancer des humeurs qui seraient en excès ou non, en fait c'était un peu toute la théorie. En fait, toutes les médecines traditionnelles sont basées sur la même chose.
L'ayurveda, c'est pareil. Exactement. La médecine chinoise aussi.
Et exactement. Et donc, du coup, on voit qu'il y a des redondances, en fait. On voit qu'il y a des similarités, justement, entre ces médecines parallèles, en fait. Et c'est aussi intéressant de voir que la raison pour laquelle on a du mal à les ranger, c'est aussi parce qu'elles ont de multiples facettes, parfois, de la même chose et des mêmes fondements derrière.
Merci beaucoup Alexandra Delbeau. Lisez Médecine alternative et complémentaire, qu'est-ce qui marche? C'est coécrit par Florian Gouttière et c'est paru aux éditions Les Arènes. J'espère à une prochaine fois.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur fasse foutre la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Voilà, c'était donc Alexandra Delbo sur Radio Libertaire qui nous parlait de ce livre coécrit avec Florian Gouttière qui est paru aux éditions Les Arènes et qui s'intitule « Médecine alternative et complémentaire, qu'est-ce qui marche ?» Vraiment un livre passionnant et qui permet de faire le point sérieusement sur toutes ces pratiques qu'on nous propose. On vous retrouve dans quelques instants la chronique de Gérard Guégan. Gérard Guégan qui va nous parler de deux ouvrages. Il va nous parler du livre de Jean Rollin qui est paru récemment. Et il va nous parler également de Paolo Cognetti, auteur que je ne connaissais pas, qui est un auteur italien qui a écrit plusieurs ouvrages et celui qu'il va évoquer s'intitule « En bas dans la vallée ». Voilà, on retrouve tout de suite Gérard Guégan pour parler de ces deux livres. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz et c'est la chronique de Gérard Guégan du jour avec au programme deux ouvrages. Le premier, bah, dans la famille Rollin, maintenant c'est l'autre frère, et le second, c'est un ouvrage de quelqu'un que je ne connais pas, que tu vas me faire découvrir, qui s'appelle Paolo Cognetti. Alors par qui vas-tu commencer ?
On va commencer par Rollin, honneur aux anciens,
et oui.
Il est quand même lui le plus vieux. Cognetti, 46 ans, voilà, donc on va le prendre en dernier, mais c'est tout à fait remarquable, j'espère que justement tu lui vas lire Cognetti. Donc revenons à Rollin, qui est tout aussi remarquable d'ailleurs, mais c'est très différent. Je réfléchissais à ça quand je l'ai lu quasiment deux fois, parce que je voulais essayer de comprendre quelque chose. En fait, sous des apparences très simples, c'est très compliqué la façon dont il construit ses livres. C'est comme si c'était comme si on suivait une piste de coin en recoin, ou comme si on soulevait un tapis pour voir ce qu'il y avait en dessous. C'est plein de secrets, de mystères, et qui s'enchaînent les uns derrière les autres sans que ce soit toujours prévisible pour le lecteur. D'où sa surprise, et une surprise agréable évidemment, parce que voilà, là par exemple, on commence par un train, je pense que c'est un RER, moi il me dit train, mais qui va dans les Yvelines, et où il est attendu, si je puis dire, par... est-ce que c'est le propriétaire, en tout cas par celui qui gère une immense serre dans laquelle la serre, il y a des milliers, des centaines en tout cas, et peut-être même des milliers, parce qu'apparemment il parle de grappes, de papillons, qui sont là et qui ont apporté, si je puis dire, à leur portée, toute une végétation sous serre, qui est donc assez luxuriante et qui permet aux papillons à la fois de se reproduire, à la fois, etc., etc. Donc on commence là-dessus et il n'y a personne, quasiment, quand il y arrive le matin. À telle enseigne qu'une des employées qui va le découvrir en train de regarder ses papillons va croire qu'il est entré sans avoir payé sa carte, sa dossier, il a triché. Bon, c'est un petit moment sourire. Mais de là, ce qui est, donc, on est dans les Yvelines, on est avec des papillons, ce qui y correspond apparemment à une partie du titre du livre, puisque c'est les papillons du bagne. Nous ne sommes pas encore bagne, mais les papillons sont là. Et puis de là, au chapitre suivant, si je puis dire, voilà-t-il pas qu'on descend directement dans le midi méditerranéen, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Côte d'Azur, et qui est un tout autre univers, évidemment, que celui de la serre, de les Yvelines, avec ses papillons, etc. C'est tout à fait un autre monde. Et le projet du narrateur, qui est évidemment Jean Rollin, c'est de faire ça à pied, de traverser la Côte d'Azur à pied, ce qui est proprement un exploit s'il y était arrivé, parce que désormais, tout ça est fermé de tous les côtés, tout est interdit, tout est hors de portée, vraiment, pour un promeneur. C'est un petit côté qui ressemble à l'Amérique, quoi, entre toutes les mesures de sécurité et tout ça. Donc, en fait, c'est une marche vouée à l'échec, quoi. Il ne se passe rien, sauf que là, encore un nouveau coin ou un nouveau recoin, brusquement apparaît Catherine Mansfield, qui était venue sur la Côte d'Azur dans les années 20, et que donc si on se retrouve avec Catherine Mansfield, c'est parce que la mère de Jean et Olivier Rollin, le frère aîné, en mourant, leur a laissé sa bibliothèque et qu'ils se sont partagés les livres, les deux frères. Et donc lui, entre autres, il a hérité du journal de Catherine Mansfield. D'accord. Moi, c'est un écrivain que j'aime pas beaucoup, même pas du tout d'ailleurs, pour être trop tout à fait honnête. Je vais peut-être que Jean Rollin pensera que je me trompe, et sans doute que je me trompe, mais c'est le goût. Je n'ai pas cessé de penser à Jean Rhys, qui est un peu, qui vient un peu après, dans les années 30, et l'autre, et qui est une Anglaise selon mon goût, c'est-à-dire une femme presque destroyée et tout ça, alors que Mansfield, c'était quand même autre chose. Mais bon, c'est donc, ça lui permet surtout de faire un coin, un recoin avec Mansfield, avec Carco, écrivain que lui n'aime pas beaucoup, alors que nous, à Subjectif, on l'aimait.
Oui, moi j'aime bien aussi, oui.
On avait reproduit. Et puis il y a Luc Dietrich aussi qui apparaît, tout ça, etc. Donc ça fait encore des petites surprises, ou même des grandes d'ailleurs. Il y a la mère, il dit deux, trois choses sur sa mère qui peuvent être que surprendre, qui ne peuvent que surprendre le lecteur. Et de là, bon, il se révèle évidemment que cette marche, cette déambulation qu'il avait prévue, qu'il avait inscrite à son programme, ne peut pas avoir lieu, et donc le voilà qui disparaît. Il ne disparaît pas à la porte à côté, mais là il se retrouve en Cayenne, donc c'est autre chose, et c'est beaucoup plus loin que le porte à côté. Et la Cayenne, c'est aussi quelque chose qui le fait rêver, donc c'est toujours attaché à des moments réels de sa vie, en tant que, quand il était beaucoup plus jeune, et même enfant sans doute, ça le faisait rêver. En plus, il y a un clin d'œil, c'est que un des soirs sur la Côte d'Azur où il a trouvé un petit hôtel pour passer la nuit, parce que sinon il serait prêt à coucher dehors, hein, il est très aventurier, si je puis dire, un citadin aventureux. Et à la vision, il y a Papillon, ce qui est un miracle, parce que je me demande bien sur quelle chaîne on peut voir encore aujourd'hui le film de Schaffner, Papillon. Mais bon, donc il y a Papillon, c'est le fameux film où un forçat qui avait réussi à s'évader a écrit ce livre dans les années 60-70, ça a été un immense succès en France, et du coup ça a été un film aux États-Unis avec des acteurs, grands acteurs.
McQueen, bien sûr. Ouais.
Voilà. Et donc, tout ça, c'est encore des coins et des recoins. Donc, on est en Cayenne. Et évidemment, ce que l'auteur pouvait espérer, ce que le vieil homme qu'il est devenu, il a, je crois, 70 ans, évidemment, c'est la déception d'une certaine manière. Même si, évidemment, et là on retrouve les papillons, même si partout il y a des papillons absolument superbes et tout ça. Et donc moi, je craignais quelque chose et qui ne s'est pas produit par bonheur. Je craignais qu'en fait ce soit au fond l'exaltation d'une chasse, car ce sont des chasseurs, ils aiment bien ça, ils aiment bien se dénommer chasseurs de papillons. Mais pas du tout. C'est très, 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 très violent même à l'encontre de ça. C'est décrit de manière très précise le moment où on enfonce l'épingle dans le corps du papillon pour en rentrer ça sur une planche qui sera vendue ou en tout cas mise en vitrine et tout ça, etc. C'est une mise à mort. Et il n'y a rien, ce n'est que ça. Alors on dira, mais un papillon, ben il meurt. Il meurt sans doute. Je suis persuadé que s'il pouvait parler, de façon de dire, il nous dirait à quel point c'est quand même douloureux, quoi. Voilà. En tout cas, c'est pas pour la chasse. au papillon. C'est, il se trouve qu'il y va pour voir, tout ça se rejoint et tout ça, mais il perd pas son point de vue critique. Et d'ailleurs, quand il va parler de Nabokov, parce qu'évidemment, qui dit papillon dit Nabokov, pour la littérature, c'est sévère là aussi. Et c'est très bien, voilà. Moi, je suis toujours pour ne pas rien cacher, donc c'est tout à fait surprenant et en même temps formidable. Il n'y a pas d'autre mot, chercher mes mots, mais il n'y en a pas d'autre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc, Les papillons du bagne, dans cet endroit qui était quand même, il fallait quand même être, avoir envie de mépriser l'homme que d'aller l'enfermer. Après une traversée de l'océan sur un voilier, après avoir d'abord descendu dans les rues de Brest, quand on partait de Brest, ils marchaient dans la ville, les uns derrière les autres enchaînés, et les gens les regardaient passer, sans doute les insultaient, leur crachaient dessus, tout ça, ces bagnards, sous le prétexte qu'ils avaient tué père et mère, comme on disait, et donc on les envoie là-bas, quoi, où on a envoyé d'ailleurs aussi Dreyfus, à l'île du diable. Aujourd'hui, c'est les orpailleurs clandestins. Aujourd'hui, c'est ça, c'est la fusée Ariane, tout ça. Mais c'est l'ombre du crime contre l'humanité reste là, parce que le bagne, c'est un crime contre l'humanité pour moi. C'est une chose horrible, quoi. Je veux dire, ça donne raison à ceux qui après vont faire des camps de concentration et tout ça. C'est le même système, quoi. Le système de l'abaissement, voilà. Donc, voilà, le livre, c'est ça, Les papillons du bagne. J'espère avoir été convaincant et que chacun de nos auditeurs ira au moins jeter un œil dessus et en tout cas l'achètera.
C'est P.O.L.
C'est P.O.L., voilà. Moi, je dis toujours Paul, mais ils ont dit P.O.L., c'était toi qui as raison.
Au boulot! 16 août. Cayenne, c'est fini. J'emmène loin d'ici la mauvaise graine de mes soucis qui a fleuri à Cayenne.
Cayenne,
captivité pas bon.
Cayenne,
tentative d'évasion.
Cayenne,
la prison quadrillée.
Cayenne,
niquée par les képis.
Cayenne,
des matons, des catis.
Cayenne,
quasiment déphasé.
Cayenne,
plaidoirie kamikaze.
Cayenne,
l'avocat dégoûté.
Cayenne,
lui manquait quelques cases.
Cayenne,
système pénitentiaire.
Cayenne,
condamner l'accusé.
Cayenne,
à purger lourde peine. Casser les cailloux à Cayenne. Casser les cailloux à Cayenne.
Casser les cailloux à Cayenne.
Casser les cailloux à Cayenne.
Casser les cailloux
à Cayenne. Casser les cailloux.
J'avais l'impression qu'ils avaient le même âge, mais pas du tout. Donc, comme je l'ai dit, Paolo Cognetti a 46 ans et il a écrit plusieurs livres avant de celui qui va paraître, voilà, qui paraissait aujourd'hui, dont a donné lieu à un film tout à fait formidable, un film réalisé par deux Belges, un homme et une femme, ce qui est encore des Flamands. Qu'est-ce qui les a attirés, eux qui sont du plat pays, dans un film qui est au contraire un film de montagne, un livre de montagne, disons, et le film est à l'identique, évidemment. C'est toute la zone qui est au grand nord de l'Italie, vers la Suisse d'un côté et le Haut-Adige de l'autre, mais là c'est la Suisse, c'est le Mont Rose, c'est un pays très dur, quoi, hein, très très dur. Donc c'est apparemment son lieu d'élection. Et donc les huit montagnes racontaient l'histoire d'une amitié, deux enfants, un enfant des villes de Turin. Les Turinois ont commencé à partir des années 50 à louer des maisons qui étaient retapées plus ou moins pour fuir la ville et se retrouver en haute montagne. Le bonheur. Donc c'est un classique, ça. Et c'était deux gamins, ils avaient une dizaine d'années, et ils vont se croiser, se décroiser aussi, ne plus se voir, se revoir et tout ça, et ensemble retaper une maison qui était la maison du père. Eux là, ils sont ces deux amis, mais il y a le père de celui qui est de la montagne. Et donc, c'était formidable comme livre. Et là, cette fois-ci, en bas dans la vallée, c'est la même région, c'est le même coin, et cette fois-ci, c'est les liens fraternels. Le reste, c'était les liens d'amitié. Or, les liens d'amitié sont faits pour être rompus. Et quand ils sont rompus, ils sont rompus. C'est rare que deux amis se réconcilient lorsque la dispute a été sévère. Alors que là, ce sont des frères, par le sang. Et même s'ils ont des moments où ils se heurtent l'un à l'autre, ils ne rompent pas le lien. Et le lien revient les chercher. Et donc le lien, c'est deux frères qui se retrouvent de nouveau dans cette région, avec une femme au milieu qui est enceinte, et qui est la femme de l'un d'entre eux, et qui n'aime pas beaucoup que son mari se retrouve avec son frère le soir. Car ce que j'ai découvert aussi cette fois-ci, mais c'était déjà dans les huit montagnes, il y a beaucoup de petits bars dans ces villages. En tout cas, il y en a peut-être moins maintenant, mais il y a eu un temps où en dehors du bar, il n'y avait rien, quoi. Il y avait peut-être parfois une petite église, et encore pas souvent, plutôt une chapelle, parfois une école. Au fur et à mesure, tout ça a disparu, et ce qui restait, c'est ces bars. Et donc là, on va de bar en bar avec des deux frères qui boivent sérieusement, hein. C'est pas du Coca-Cola Light, c'est du lourd, comme on dit, du puissant. Et c'est une chronique de du désespoir et en même temps de l'espoir. C'est un mélange comme ça. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ça m'a beaucoup touché. Et ça donne vraiment envie, en plus, de se mettre devant une feuille de papier et d'écrire à son tour un livre comme ça. Bon, je veux dire, parce que la manière dont les voix se correspondent, il n'y a pas chapitre 3, Paolo entre en scène. Non, non, c'est, il n'y a rien. Il faut deviner, il faut faire un effort, et on le fait facilement, parce que c'est tellement prenant, savoir qui parle. Voilà. Tel chapitre, on va dire chapitre 1, c'est qui parle. Comment c'est celui qui revient au pays, c'est le frère qui devait être ailleurs dans le monde. Mais ça, c'est facile. Et après, deux, trois, alors qui parle? Qui parle? Et il faut se rattacher à un mot, à une situation, à une couleur pour arriver à deviner. Et c'est pas du tout avant-gardiste pour faire chic et brillant. Non, non, c'est tout à fait, ça fait plutôt penser. D'ailleurs, ça m'a frappé, là, ce qu'on appelle l'école de Missoula au Montana, où on trouve un certain nombre d'écrivains américains qui sont soit originaires, soit en tout cas se sont installés dans ces montagnes aussi, dans la neige et tout ça, et le froid. C'est des pays durs, très durs. L'école de Missoula, c'est ça, je pense à... On les connaît, que ce soit Crevelé, que ce soit Rythmas, etc., etc. Et d'ailleurs, tout ça, on est poussé à penser à Missoula et au Montana, parce que le dernier chapitre, c'est sur, au fond, l'Amérique du Nord, et le Nebraska, à cause de la chanson de Springsteen. Voilà. Donc ça se termine sur Springsteen. Et on pourrait dire que tout livre qui se termine sur Springsteen...
C'est pas mal.
Frise le chef-d'œuvre.
Oui, on est d'accord. Mais on se demande quand même comment ça va aboutir aux États-Unis. Mais ça, on va le découvrir en le lisant.
Ah oui, ça il vaut mieux l'attendre de savoir comment, pourquoi on se retrouve.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est paru chez Stock.
Et c'est paru chez Stock, ça paraît, à vrai dire, le 30 avril.
D'accord.
Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est demain, après-demain, je m'y perds, moi, dans les émissions. Voilà. En tout cas, ça paraît chez Stock, c'est toujours, pour ce que j'en ai lu, pour ce que je peux sentir, plutôt bien traduit et très bien traduit. C'est très agréable à lire aussi en français. Alors, j'ai d'ailleurs commandé celui-là en italien, je vais l'acheter parce que le peu d'italien que je connais, il paraît que c'est vraiment... J'ai écouté un type, j'étais dans une librairie ce matin à Nîmes, et quelqu'un disait l'avoir lu en italien, que c'était déjà tout à fait remarquable. Donc je vais l'acheter pour voir si j'arrive à comprendre, parce que c'est une langue.
En tout cas, en général, les traducteurs de la collection La Cosmopolite chez Stock sont bons. Donc, on peut, si on ne lit pas l'italien, le lire en toute confiance.
Oui, c'est sûr. Non, ça, c'est purement pour voir si, d'abord, c'est un travail que je m'impose en achetant. Parce que peut-être qu'au bout de la quatrième page, je ne comprendrai plus rien. Parce que l'italien parlé que je parle quand je vais en Italie est loin d'être italien de mes livres littéraires. Oui, c'est Anita Rochdi qui l'a traduit. Je crois qu'elle en a traduit d'autres, il me semble. En tout cas, voilà, il y en a 4 ou 5, il y en a 3 ou même 5. Il y en a au moins 3 en livre de poche, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc on peut acheter. C'est une valeur sûre.
On va découvrir Paolo Cognetti. En tout cas, merci d'avoir parlé de cet auteur dont je n'avais jamais entendu le nom auparavant. Et puis, Jean Rollin, c'est une valeur sûre, donc allez-y en toute confiance aussi. À la prochaine fois.
Eh bien, à bientôt.
Et merci. Merci. À la fin de cette émission Idéaux et Débats sur Radio Libertaire, on a parlé de plein de choses aujourd'hui, médecine alternative et complémentaire, qu'est-ce qui marche, paru aux Arènes d'Alexandra Delbo et Florian Gouttière, et puis ensuite c'était les ouvrages proposés par Gérard Guégan. Nous nous retrouvons bien sûr dans deux semaines, et dans deux semaines ce sera une émission un petit peu particulière puisqu'il n'y aura qu'un seul auteur. Nous vous proposons d'écouter un long entretien avec Jean-Paul Dubois à propos d'un ouvrage absolument remarquable. C'est un roman que j'ai adoré, qui s'intitule « L'origine des larmes » et qui est paru aux éditions de l'Olivier. Mais ça, c'est pour dans deux semaines. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire et portez-vous bien.
Je ne suis fils de personne, je ne suis d'aucun pays, je me réclame des hommes qui aiment la terre comme un fruit, qui aiment la terre comme un fruit. Au gré de l'amour, je veux m'abandonner au rythme des jours et des nuits dévoilées.
J'aime le goût d'écume, la saveur des ombres, la douce amertume des brumes du matin. Reverrai-je encore l'automne, le temps des grandes marées, puis l'hiver où tout frissonne, puis en printemps, puis l'été. Toute saison pour aimer. Au gré de l'amour, peut-on s'abandonner quand on se souvient ce que sera demain? Contre les humains qui sèment dans leur coin les forêts d'acier fleurissent de barbelés. Sommes-nous si peu de choses, des insectes trop petits? Ne sommes-nous donc plus des hommes pour nous laisser faire ainsi? Est-il encore temps d'aimer? Au gré de l'amour, j'aimerais m'abandonner dans un lit de sable par les vagues bordées, sous le grand soleil avant d'être glacé, au bruit des abeilles, vivre le temps d'aimer. Reverrai-je encore les neiges, les feuilles mortes s'envoler? Laissez-moi me prendre au piège du doux plaisir d'exister. Laissez-nous le temps d'aimer. Je ne suis fils de personne, je ne suis d'aucun pays. Je me réclame des hommes qui aiment la terre comme un fruit.
Qui aiment la terre comme un fruit.
Dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, libre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
We'll be right back.
Listen one more time for the black man's cry.